Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Mélanie Mola, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes la fondatrice des éditions FIER, un nouveau projet rennais qu'on va raconter dans le détail lors de cet échange. Le point de départ au lancement de votre maison d'édition, c'est un sentiment d'appartenance qui est non négligeable à la communauté LGBTQIA+. On redonne le détail, lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe et asexuée. 10% de la population française dans son ensemble, et c'est même un chiffre qui passe à 18% pour la jeune génération, la génération Z. Est-ce que ces chiffres, ils vous ont surpris quand vous les avez découverts ou finalement vous vous y attendiez ?
Je m'y attendais un peu. En fait, le chiffre de 10% est assez stable. Je ne pourrais pas dire depuis quand exactement. Moi, j'ai fait mon coming out il y a 18 ans et à l'époque, autour de 2005, on était déjà autour de 10% et j'ai l'impression que c'est un chiffre qui reste. Le 18% pour la génération Z ne m'a pas forcément étonnée, j'ai l'impression, en tout cas de ce que je vois, qu'il y a une liberté et quelque chose qui est plus présent, où on se pose moins les questions sur la question de genre, la question de sexualité aussi, qui est très intéressante et qui donne beaucoup d'espoir, je trouve.
Alors aujourd'hui, pour s'adresser à cette communauté et lui proposer des récits dans lesquels on peut s'identifier, il y a déjà des maisons d'édition traditionnelles ou généralistes qui existent. Pour vous, ça suffit pas ? Il y a un travail qui est mené, mais quoi, pas suffisant ou avec des biais
Il y a parfois des collections qui existent dans les maisons d'édition traditionnelles. Après, ce qui m'embêtait en me renseignant un peu, c'était surtout le modèle de rémunération. Le modèle classique, la chaîne du livre est très dense, il y a beaucoup d'acteurs, ce qui fait que chacun récupère une toute petite partie. Quand j'ai commencé à regarder maisons d'édition indépendantes, il y en existe plus, mais beaucoup sont en associatif, c'est-à-dire qu'au bout de quelques années, certaines existent déjà depuis 2, 3, 4 ans, donc c'est assez récent, les nouvelles maisons d'édition qui sont queer ou assimilées, mais en modèle associatif, ce qui fait que pour récupérer des prêts, pour aller un peu plus loin, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va bloquer à un moment donné. Et les maisons d'édition généralistes font des collections. Parfois, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est très lié capitaliste et du coup, il y a un marché, donc on va y aller. Est-ce que c'était vraiment sincère? Et le fait de dire LGBT ou queer, pour beaucoup, ça reste quand même très politique et du coup, les gens ont peur. Donc, oser le dire, ça reste quand même dans les maisons d'édition indépendantes.
On peut aussi dire que globalement, les récits queer sont encore peu mis en avant dans les maisons d'édition généralistes et que quand c'est fait, on trouve beaucoup d'essais, ça c'est vrai, de littérature théorique et puis des romans où vous remarquez que le récit n'est pas forcément joyeux, il y a souvent une tonalité tragique.
C'est ça. Ça commence à changer quand même depuis quelques années. Il y a aussi tout ce qui est au niveau de la culture, quand je vois Netflix et autres, on a de plus en plus de personnages principaux mais secondaires aussi qui ont une importance, qui sont LGBT et qui ont un véritable récit. Mais il y a encore quelques années, quand j'ai fait mon coming out il y a 18 ans, quand j'ai commencé à chercher vraiment des livres LGBT, déjà il y avait un côté binaire, c'était soit les gays, soit les lesbiennes. Rien entre les deux, évidemment. La bisexualité n'existe que depuis quelques années apparemment. Chez les gays, on parlait principalement du sida. Et chez les lesbiennes, il y avait toujours une histoire d'amour compliqué. Où une des deux se suicidait. Vraiment, j'avais l'impression qu'il n'y avait que ça. Et c'était très tragique, en fait. Et je me disais que même ma vie amoureuse allait forcément être tragique. Alors qu'en fait, non.
On arrive à cette grande question. Ça change quoi de lire des textes qui sont non hétéronormés, dans lesquels on peut s'identifier à des personnages ou à des récits lorsqu'on fait partie de la communauté LGBTQIA+.
Ça fait du bien. Ça fait du bien, on se sent représenté, on se dit qu'autre chose est possible aussi. Quand j'ai fait une étude fin d'année dernière pour voir si cette maison d'édition avait du sens, je me suis dit, on a un besoin de représentation, mais c'était mon postulat. Et dans les verbatims et choses que les gens disaient, on avait énormément de besoin de représentation. Et ce qui revenait souvent, c'était, on en a marre des récits que hétérocentrés, parce que c'est pas la réalité, c'est pas mon groupe de potes, c'est pas les gens autour de moi, c'était de voir d'autres choses aussi. Et en fait, ça fait juste du bien de se sentir vu, entendu, de se dire « Eh ok, c'est pas que moi, je suis pas une anomalie, en fait, j'existe et ça existe et je fais partie d'un tout ».
Et avant un coming out, on peut aussi imaginer que ça peut rendre possible une prise de conscience aussi.
C'est ça, exactement. De se dire, en fait, c'est possible. Et le récit peut être optimiste. Et rassurer aussi peut-être les gens autour, les alliés qui, parfois, ont une image très négative.
Des maisons d'édition se sont donc spécialisées pour s'adresser au public LGBTQIA+, une dizaine en France, ce qui est assez, on va dire, anecdotique, puisque ça représente 1% de l'ensemble des maisons d'édition sur le territoire national. Vous êtes allé jeter un œil à leur projet, enfin, vous êtes même tombé sur un de ces projets hors de France, en Espagne.
C'est ça. Là, c'était plutôt une librairie qui s'appelle Librería Mujeres a Madrid, qui ne vend que des livres écrits par des femmes. Et donc là-bas, je demande à la libraire, est-ce qu'elle a des livres écrits par des femmes hispanophones qui traitent de sujets LGBT, idéalement qui finissent bien. Et du coup, elle m'amène devant un rayon rempli de romans, de BD. Et vraiment, j'ai eu ce sentiment de « Ouh, ça fait du bien ». J'ai eu ce sentiment-là il y a quelques semaines en allant chez Violette & Co. C'est une librairie qui est à Paris. Et la semaine dernière, chez Les Vagues aussi. C'est une nouvelle librairie queer qui a ouvert à Nantes en juin. On voit d'autres choses et ça fait du bien dans tout genre, pour enfants, pour ados, jeunes, adultes et différents types de contenus. Et quand je suis arrivée dans cette librairie à Madrid, c'est là où je me suis dit « Ok, si je dois monter une maison d'édition, c'était un projet que j'avais en tête depuis quelques mois déjà, ce serait une maison d'édition queer ». Donc l'édition Fier est vraiment née là-bas.
Et pour ce qui est des maisons d'édition, vous êtes allé regarder ce qui se faisait ailleurs en France ?
Oui, tout à fait. Il y a un festival qui existe, qui est à Montreuil, qui s'appelle le festival Slap. Donc là-bas, j'ai pu rencontrer pas mal de maisons d'édition. Dans le sud, je crois qu'elles sont à Toulouse, c'est édition Blast, qui ont une collection incroyable d'essais et de poésie très engagée. Dans l'Est, on ne compte pas pour du beurre, où là, c'est plutôt de la BD pour enfants, ados et aussi pour les adultes, enfin pour les parents, à destination des parents. À Paris, on a IB Édition, qui est plutôt ado-fiction, principalement. Hystérique et associé aussi, qui est en banlieue parisienne. Et là, c'est plutôt de la traduction et Yael sort très peu de livres. Voilà, il y en a plusieurs, il doit y en avoir sans doute d'autres. À Rennes, on a Édition du Commun qui ne sont pas forcément queer, mais qui ont des livres et des essais qui parlent de ces sujets-là et qui sont très engagés.
Peut-être aussi du côté des éditions Guater ?
Oui, également aussi, oui, tout à fait. Qui sont à Rennes également et qui ont une collection incroyable et qui proposent beaucoup de choses aussi très intéressantes.
Vous décidez donc vous aussi à lancer votre maison d'édition ici à Rennes. Il faut expliquer que dans votre bagage professionnel, vous avez un parcours qui n'est pas forcément classique si on parle du champ littéraire. Vous avez, on va dire, poussé des portes qui ne s'ouvraient pas et décidé de lancer votre structure à vous, quoi.
C'est ça. À la base, j'ai bossé 10-15 ans dans le marketing. Mon premier stage, c'était au sein des cinémas Gaumont-Pathé en marketing au siège. Et je voulais bosser dans la culture, mais bon, en sortant d'études, bah, pas forcément beaucoup de boulot dans la culture, donc j'ai commencé à me dire, ok, je vais monter en compétences et je verrai après. Donc j'ai bossé un peu partout, dans des agences, dans du conseil, à Rennes, c'est dans ce qu'on appelle les logiciels SaaS, Software as a Service, dans différentes structures où j'ai fini par être responsable marketing, mais l'édition littéraire était toujours là. Donc j'ai commencé à vouloir intégrer le monde de l'édition littéraire pour la première fois en 2017, mais c'est très compliqué, enfin, en tout cas à Paris, dans les grands groupes. À l'époque, c'était comme ça, je ne sais pas si c'est toujours le cas, quand on n'a pas un master dans l'édition littéraire ou si on n'a pas fait de stage en édition. Donc impossible de rentrer en 2017, pas d'entretien. 2020, je retente quand même parce que je suis obstinée. Là, j'ai des entretiens, mais on me dit que j'ai trop d'expérience. Mais entre-temps, j'avais fait des comptes Instagram. Donc il y a tout ce qui est les mouvements Bookstagram, mais qui existent aussi maintenant sur TikTok, qui permettent à n'importe qui en fait, de montrer leur avis sur les livres, et en fait les maisons d'édition travaillent très rapidement avec elles.
Ça c'était au moment de la crise sanitaire, non ? En 2020 ?
Tout à fait, j'avais un peu de temps. et donc là j'arrive à passer des entretiens, et à l'époque c'était pour les éditions Libella à Paris, et le directeur marketing qui à l'époque était Nicolas Vatrin me demande pourquoi est-ce que je ne monte pas mes maisons d'édition avec mes compétences en marketing digital. À ce moment-là, premier confinement, moi je décide de revenir vivre à Rennes. À l'époque, j'étais à Paris. Je me dis non, je peux pas faire plein de changements dans ma vie et me lancer. Donc le voyage en Espagne était quelques temps après, mais la communication me permettent d'avoir des compétences qui sont quand même importantes aussi en maison d'édition. Et c'est pour ça que je m'entoure d'autant de personnes. Aujourd'hui, il y a environ une dizaine de freelances qui travaillent sur les éditions FIER. Donc ça va autant de la partie éditoriale que la partie correction, maquettiste, etc. Donc l'idée, c'était de trouver un maximum de personnes qui ont ces compétences-là pour pouvoir créer quelque chose qui soit solide au final.
Sur les personnes qu'on voit mises en lumière sur le site internet des éditions FIER, plusieurs femmes.
Oui, il y a que des femmes ou des personnes non-binaires qui travaillent sur ce projet-là. Enfin, c'est pas une volonté de ne pas avoir d'hommes cis, mais étonnamment, c'est ces personnes-là qui sont venues directement. Et en fait, ça m'allait bien aussi d'avoir un projet qui me corresponde aussi.
Pour lancer cette maison d'édition, dont on redonne le nom, les éditions FIER, vous avez donc commencé par mener une étude quantitative en ligne, ça c'était en fin d'année dernière. Près de 700 personnes ont répondu et vous ont permis d'être sûr qu'il était important pour ces personnes-là d'avoir au moins un personnage queer dans les lectures. Sur le nom, tiens, ça a été évident de s'arrêter sur ce nom-là, FIER, avec un petit point médian.
Assez vite, oui. Alors, en responsable marketing, j'ai jamais été la plus forte dans ce qui est branding de nom. J'avais deux comptes Instagram. À un moment, c'était Passion Bouquin. Et après, c'était One Book a Day, de l'expression anglaise qui est One Apple a Day Keeps the Doctor Away. Et donc, c'était une pomme par jour
éloigne le docteur.
Hein. Exactement. Et du coup, c'était un livre par jour éloigne le docteur. Et édition FIER, je crois que c'était. Alors, déjà, le mot FIER m'est venu directement en tête parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met en avant, la fierté. Et du coup, je trouvais que c'était assez clair comme nom. Et le point médian, je le voulais absolument parce que c'était important pour moi de l'avoir et de montrer que c'était inclusif. Après, ça m'aidait aussi de voir qui était en face de moi, pour être très honnête. Parfois, quand je présente le projet et que quelqu'un tilte sur le point médian, je sais comment ça va se passer.
Ça donne une couleur, en tout cas une idée de ce qui vous tient à cœur avec ce projet. On lit aussi en ligne que si on s'intéresse à l'étymologie du mot fier, issu du latin ferus, il signifie sauvage, et que d'un point de vue littéraire, on parle de quelque chose d'audacieux, d'intrépide et qui méprise les périls. Votre maison d'édition, elle est spécialisée dans les romans, mais aussi les traductions et les rééditions. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Ça aurait pu être dans la bande dessinée. La littérature jeunesse.
L'idée de faire des romans, traductions et rééditions, ça me permet d'aller assez loin en fait. Par exemple, dans les trois premiers livres qui vont sortir, il y en a deux qui sortent cette année. Donc il y a une autofiction, il y a un livre qui est plutôt adolescent. L'année prochaine, ce sera un recueil de nouvelles qui mélange érotisme et humour. L'idée, c'était pas de se cantonner à un seul genre, mais d'aller assez loin. La traduction aussi, c'est de permettre de voir les récits qui viennent d'ailleurs. Donc le recueil de nouvelles, par exemple, érotique et humoristique, vient d'Espagne. C'est 10 autrices espagnoles qui ont chacune fait une nouvelle. Et la réédition, c'est en fait d'essayer de retrouver et de conserver en mémoire nos vies, nos vécus, nos existences, en fait, tout simplement.
Très concrètement, vous y avez accès de quelle manière à ces récits ? On vous envoie des choses, j'imagine. Vous allez aussi, vous, vers certains récits
Pour les romans et les traductions, des gens viennent me contacter là, de plus en plus depuis ces dernières semaines. Donc les romans, soit c'est des personnes qui m'envoient leurs manuscrits. Les traductions, c'est des traducteurs qui me proposent du contenu. Pour la réédition, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose encore. Je commence à avoir quelques pistes. Donc c'est soit par des lectures que je fais, soit par des articles de journaux aussi où je découvre certains récits. Je me dis, mais en fait, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler ? Et j'essaye d'aller les voir. Pour l'instant, il n'y a rien qui va être réédité pour l'instant chez Édition FIER. Mais j'ai bon espoir que ce sera le cas dans les prochains mois.
On va bientôt arriver à ces deux ouvrages, les premiers qui vont paraître à l'automne aux éditions FIER. Mais une fois que vous avez retenu un récit pour qu'il paraisse chez vous, quel choix vous faites sur la façon d'accompagner l'auteur ? Il peut y avoir une part importante de réécriture, de correction. Certains prennent les récits tels quels, il y a différentes façons de faire.
L'idée, ça va être de retravailler, mais retravailler avec quelqu'un qui s'y connaît, donc c'est-à-dire un éditeur, une éditrice. Aujourd'hui, il y a eu par exemple Judy Mazzuni, qui est une éditrice indépendante qui a travaillé sur les deux premiers romans et qui a accompagné les deux autrices sur les textes, faire en sorte que tout soit cohérent, vérifier les passages, etc. Donc on va faire le choix de vérifier quand même tout ce qu'il y a, comment est-ce qu'on peut le rendre plus fluide, plus lisible, est-ce qu'il y a des incohérences, on va quand même le retravailler derrière.
Et on arrive à la question de la distribution. Alors, vous reprendrez le terme parce qu'a priori, ce n'est pas exactement le bon. Mais en tout cas, amener le livre dans les librairies auprès des lecteurs et des lectrices, une fois que les ouvrages sont conçus et puis imprimés. On parle là d'un possible combat pour trouver des lieux où amener ces livres ou, par exemple, la présence de librairies indépendantes dans la région Bretagne. Elles sont nombreuses. Est-ce que ça peut aider ?
Ça peut aider totalement, en effet. Par exemple, je me suis lancée très rapidement sur un compte Instagram pour avoir une communauté et parler des éditions fières. Et je suis déjà suivie par des librairies qui sont beaucoup en Bretagne, mais pas que. Et le réseau de distribution, là par exemple, je pars sur une tournée de 3 semaines des libraires. Donc la semaine dernière, j'étais à Nantes, je vais être à Bordeaux, Paris et Bruxelles. Et l'idée, c'est d'aller voir les librairies, de les démarcher. Le fait d'essayer de faire beaucoup de communication, c'est aussi d'être vu et entendu par ces libraires-là pour qu'ils soient au courant. Si quelqu'un vient les voir en leur disant « je cherche ce livre-là, des éditions fières », ou aussi pour qu'ils s'y intéressent et le prennent. Le fait d'avoir des librairies indépendantes en Bretagne, c'est génial parce que ça les intéresse. Ça permet aussi de savoir quel type de livre il y a des besoins aussi pour la suite. Qu'est-ce que les lecteurs veulent aussi lire. L'idée, c'est pas de publier des livres pour publier des livres, mais aussi quelque chose qui ait du sens.
Et qui trouvent leurs lecteurs et leurs lectrices, qui, je pense, est tout à fait jouable, en tout cas sur un territoire comme la région rennaise. Si on vous reçoit aujourd'hui, c'est qu'on annonce la sortie de 2 premiers ouvrages aux éditions Fier à l'automne. Ils vont très vite arriver. Ils sont déjà disponibles en précommande depuis le 26 août. Ça se passe sur la plateforme de financement participatif ulule.com. On les présente, ces 2 ouvrages.
Le premier, c'est une autofiction. Donc c'est Te parler encore par Laetitia Finizio, qui sortira le 21 octobre. Donc c'est l'histoire de Laetitia qui a perdu son père d'un cancer il y a quelques années et c'est tout le récit va jouer autour de l'avant, le pendant et l'après la maladie de son père et c'est recréer un lien. Le lien entre parents et enfants peut être compliqué. Parfois quand on est queer ça peut être plus compliqué mais n'importe qui pourra s'y reconnaître je pense qu'on a des relations conflictuelles avec les parents. Et donc c'est comment pardonner, comment aimer de nouveau. Donc c'est vraiment un roman très court qui fait 136 pages, qui est très brut, très dense. Laetitia a une force d'écriture qui est très intéressante et qui pour moi était importante de la mettre en avant en premier parce que c'est un récit de vie qui ne parle pas forcément de sa sexualité. Parce que généralement, c'est ce qui intéresse un peu la sexualité. Là, non, ça va parler d'un récit de vie, d'un récit familial. Le deuxième, c'est le premier roman d'une Bretonne aussi qui s'appelle Marine Perrard. Mais ce n'est pas son premier livre. Elle a écrit il y a quelques années un recueil de poésie qui s'appelait Viande à viol, qui sera réédité cette année aussi le 8 novembre. Et on sortira à la fin, nous ferons histoire, son premier roman, le 8 novembre également chez Édition Fière. Et donc là, on est sur un roman plutôt adolescent, mais qui peut être lu par n'importe qui. Donc c'est 4 adolescentes pendant la manif pour tous. Et on va suivre Juliette et Romane. Juliette qui vient d'une famille conservatrice, qui va être très à fond manif pour tous. Donc c'est leur année de première en 2012-2013. Elle tombe amoureuse de Romane et autour de ces deux personnages, on aura Silas d'origine kabyle, élevé par ses deux mamans, et Lou qui se pose des questions sur son genre. Et donc on va voir comment ces 4 personnages vont évoluer face à la manif pour tous et se construire en fait tout simplement et devenir de futurs adultes.
Parviendront-elles à s'affirmer face à l'hostilité ambiante ? C'est la question au cœur de ce roman, un roman décrit comme poignant et poétique sur le courage d'être soi-même, la force de l'amour et l'importance de l'acceptation de l'autre. Ces 2 romans, ils vont donc paraître à l'automne, mais on peut déjà les précommander avec des illustrations signées Raphaël Filastre, de très jolies illustrations que je laisserai les auditeurs aller découvrir. Il y a une campagne de financement participatif qui est toujours en cours.
C'est ça.
Comment est-ce qu'on cadre et on bétonne son projet pour qu'il tienne dans le temps, dans ce secteur qu'on sait traverser par des tensions financières, quoi.
C'est ça. L'idée, en tout cas, du modèle économique, ce serait de partir à chaque fois en précommande. L'idée de la précommande, c'est de mieux rémunérer aussi les auteurs, d'avoir une trésorerie quasi immédiate. Pour pouvoir après proposer aux libraires aussi une remise qui est plus intéressante parfois que ce qu'ils peuvent avoir. Mais aussi à côté, l'idée de l'édition Fière, c'est aussi de proposer du conseil en entreprise, donc à partir de 2025, plutôt sur l'inclusion, la diversité des personnes LGBT et de marketing aussi, vu que c'est mes domaines de compétences. Et l'idée, c'est grâce à ce conseil d'asseoir financièrement la société au final.
Mélanie Mola, je vous représente. Vous êtes donc la fondatrice des Éditions Fier, un nouveau projet rennais à suivre sur un site internet, editionsfier.com, également sur les réseaux sociaux. Et pour les auditeurs qui souhaiteraient précommander une, voire vos deux premières parutions qui arrivent à l'automne, eh bien rendez-vous sur la plateforme de financement participatif ulule.com. Merci Mélanie.
Merci.